Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Au début, ils sont sages et bien alignés, face à face et sur deux rangs. Au milieu, le roi et sa dame, accompagnés de leurs fous et de quelques cavaliers au milieu des tours. Les soldats sont en ordre de bataille et soudain, ils s'animent, la partie commence. À la fin, la victoire est brillante et l'échec est mat, jolie formule de Coluche, qui croise dans ce livre Nabokov et Kasparov, Lewis Carroll et Mikhaïl Tal, Stefan Zweig et Judith Polgar. Un essai littéraire passionné, érudit, plein d'humour, qui, loin de nous enfermer dans les 64 cases du plateau, nous invite à arpenter le grand échiquier de la vie. Denis Grozanovic nous dévoile la vie rêvée du joueur d'échecs chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Denis Grozanovic.
Bonjour.
Ce livre, vous l'avez dédié aux pousseurs de bois. Qui sont-ils, ces pousseurs de bois?
Les pousseurs de bois, parce que traditionnellement, les pièces sont toujours maintenant fabriquées en bois. Et le pousseur de bois, traditionnellement, c'est le joueur médiocre.
C'est moi.
Qui au lieu d'inventer des combinaisons merveilleuses, ne fait que pousser les pièces un peu à la vague, comme je te pousse.
Ouais. Vous en avez été un pousseur de bois au début, non même pas?
Oui, bien sûr, on l'est toujours au début. Je peux me considérer comme un bon joueur, mais disons que par rapport aux joueurs brillants dont je parle dans mon livre, je reste un pousseur de bois.
Bon, les échecs, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit?
Oui, tout à fait. Un peu comme le personnage de Nabokov. Aussitôt que j'ai vu un échiquier, j'ai eu l'impression d'une sorte de paysage merveilleux. C'est difficile d'expliquer. Un monde enchanté. Et tout de suite, ça m'a captivé.
Mais vous étiez donc enfant, déjà?
Oui, c'est mon père qui m'a appris.
Donc c'est vraiment par le jeu que vous êtes tombé dans ce rêve des échecs.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Je voudrais qu'on commence justement par parler de cette notion de jeu, avant d'en venir aux échecs eux-mêmes, parce que vous êtes, Denis Grozanovic, un apôtre de l'homme ludique, pour reprendre le titre du livre de l'historien néerlandais Johan Huizinga, que vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises. Pourquoi le jeu a-t-il autant d'importance pour vous, non seulement dans la vie d'un enfant, mais aussi dans celle d'un adulte?
Mais c'est précisément quand j'ai découvert, vous le savez sans doute, j'ai été champion de France junior de tennis et je me suis retrouvé dans l'équipe de France à l'âge de 17 ans et j'étais hébergé à l'INES, l'Institut National des Sports à l'époque, à Vincennes. Et il y avait une petite bibliothèque que personne ne fréquentait parce que les sportifs et la culture d'une façon générale, ça fait plutôt deux. Et j'ai découvert ce livre qui s'appelait Homo Ludens, c'est comme ça m'a toujours interpellé de savoir pourquoi j'étais tellement attiré par les jeux. Eh bien, j'ai trouvé la réponse dans ce livre merveilleux qui, non seulement est un livre extraordinaire sur le jeu, mais est un livre de philosophie générale, un des plus prodigieux que j'ai jamais lu. Ça, je dois le dire, et je recommande à tous les gens qui s'intéressent à cette question, parce que ça va très loin pour lui, ce qu'il appelle l'élément ludique ou l'élément agonal.
Mais c'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement un animal politique, n'est pas seulement un animal social, c'est aussi un animal ludique.
Oui, selon lui, oui. Le jeu va très loin, même si vous voulez, pour lui, les guerres anciennes, surtout pas modernes, mais les guerres anciennes participaient d'une sorte de ludisme très martial et parfois cruel, mais il y avait quand même un côté ludique. Et donc il va très loin, il explique que tous les arts sont ludiques à la base. Presque toutes les activités humaines sont ludiques.
Et la vie tout entière serait une forme de jeu, on peut dire ça comme ça?
Exactement, et presque un jeu qu'on pourrait dire parfois cosmique.
Oui, et mortel aussi.
Et mortel,
voilà. Alors pour vous, Denis Grozanovic, le jeu d'échecs, il y a évidemment dans le jeu d'échecs cette dimension ludique, mais portée à son paroxysme.
Exactement.
En quoi le jeu d'échecs serait l'acmé du jeu?
C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été conçu, on a l'impression que c'est un jeu magique tellement il a été bien conçu, parce que évidemment, il y a aussi le Go, hein. Mais le Go correspond plus au tempérament asiatique. Tandis que il y a un côté extrêmement dynamique dans le jeu d'échecs qui correspond à notre tempérament occidental. Et il y a, pour moi, si vous voulez, le jeu d'échecs est la meilleure manière de résorber la pulsion meurtrière, la pulsion de mort qui gît au cœur de l'homme. Parce que par ce symbolisme des pièces qui sont quand même des symboles guerriers, eh bien, il y a une sorte de catharsis de la violence humaine qui est réalisée. Et c'est pour ça que c'est un jeu merveilleux, c'est pour ça que ça captive tellement les gens, parce que, c'est ce que je dis dans mon livre à un moment, là je fais un petit saut, mais je suis un peu un habitué des digressions.
Mais allez-y.
Il y avait un joueur de tennis dans le temps, un joueur mexicain qui s'appelait Ozuna, que j'aimais beaucoup. Et une fois dans les vestiaires, je me souviens, il avait dit, ce qu'il y a de merveilleux au tennis, c'est qu'on lutte à mort pendant une heure et demie, et on a la bonne surprise que vainqueur ou perdant, on en sort vivant. Et les échecs, c'est la même chose. La plupart des joueurs d'échecs ont l'impression d'y mettre leur vie, quoi. C'est une sorte, comme on disait dans le temps, de duel divin, Lord Ali. Et en fait, on en ressort vivant. Donc, je trouve que cette question dont parle beaucoup Huizinga, de la catharsis, est extrêmement importante.
Et vous passez du jeu au rêve, très très vite. Alors comme ça, intuitivement, ça ne va pas être évident pour tout le monde, quoi, que les échecs, que le jeu d'échecs est un pourvoyeur de rêves. Et vous prenez l'exemple de Lewis Carroll. Vous prenez l'exemple du Chevalier Blanc dans De l'autre côté du miroir, qui est donc la suite, hein, comme on le sait, d'Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce personnage du Chevalier Blanc ?
Ah ben, le Chevalier Blanc, pour moi, et il faut savoir que Lewis Carroll, bon, qui d'autre part, par ailleurs, adorait les échecs, hein, il était même allé assister au premier championnat du monde entre Steinitz et Staunton, et il jouait des parties avec toute sa famille. Et il faut savoir que, par ailleurs, il était professeur de mathématiques, mais que c'est le plus grand pourfendeur, finalement, de la raison logique occidentale. Et tout son livre est dirigé, c'est, à mon avis, Alice au Pays des Merveilles n'est pas du tout un livre pour les enfants, c'est une satire de la logique occidentale à base mathématique absolument prodigieuse. Et il savait de quoi il parlait. C'est ça qui me fascine chez Lewis Carroll. Et alors, le Chevalier Blanc est le symbole majeur de la logique extrêmement rigoureuse, mais qui n'aboutit à rien. Il n'arrête pas de se remettre en selle et il n'arrête pas de tomber de cheval. Et à un moment, ça culmine dans cette réflexion merveilleuse quand Alice lui demande qu'est-ce que c'est que ce vieux mousquet qui pend à sa ceinture. Il dit, ma chère amie, ceci est une subtile ruse de guerre, car si par hasard il devenait à tomber aux mains de l'ennemi, il ne pourrait lui être d'aucun usage. Et ça, c'est l'humour de Lewis Carroll, qui se moque finalement de tous ces inventeurs, ces innovateurs qui en réalité ne font que nous proposer des choses qui sont totalement inefficaces.
Mais les joueurs d'échecs que vous avez rencontrés, vous en avez rencontré quelques-uns de tout niveau, oui. Denis Grozanovic, ils ressemblent au Chevalier Blanc de Lewis Carroll ou ils ressemblent plutôt au calculateur un peu froid, parfois peut-être même un peu cynique que l'on a coutume de décrire parfois ?
Alors, en réalité, en général, ils sont limités aux 64 cases, donc ils risquent pas de faire beaucoup de mal.
Mais ils sont enfermés dans leur monde.
Ah oui, complètement. Oui. Par contre, quand il leur arrive de vouloir s'évader des 64 cases et de vouloir appliquer des règles un peu trop logiques dans la réalité quotidienne, immédiate, là, ça crée des catastrophes.
Oui, les allégories vivantes de la raison logique débridée et décollée du réel. Voilà. C'est comme ça que vous les décrivez dans les... On a un peu l'impression que c'est le champion d'échecs qui quitte son échiquier et qui ne sait plus du tout comment se débattre dans le monde.
Si vous voulez, pour moi, c'est un peu une allégorie du monde scientifique débridé aussi. Toutes ces innovations qui n'aboutissent à rien et dont on voit le résultat en ce moment avec cette crise, puis que pour moi est tout à fait le résultat d'une civilisation qui est en train, plus ou moins, à mon avis, de s'effondrer.
Peut-être qu'une autre crise sanitaire renaîtra, et de ses conséquences.
Oui, peut-être qu'une autre renaîtra. Mais cette crise, pour moi, est complètement due à des faux raisonnements extrêmement intelligents, puisque j'en parle dans mon livre. Il existe de faux raisonnements extrêmement intelligents.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut être un expert, on peut écrire de façon parfaitement logique, de façon parfaitement réfléchie sur le papier, et aboutir à quelque chose qui ne correspond absolument pas à la réalité.
Ouais, exactement, exactement.
Alors vous brossez des portraits assez savoureux des joueurs que vous avez rencontrés dans le club que vous aviez l'habitude de fréquenter il y a quelques années. On n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris, oui. Un endroit enfumé, hein, vous vous rappelez, oui, d'ailleurs, au détour, oui, d'une phrase que, voilà, à l'époque, c'était pas interdit en France de fumer à l'intérieur des bâtiments et personne ne s'en privait. Nous sommes à la page 15 de votre livre.
Il y avait notamment Combes, le professeur de philosophie qui avait poussé l'analyse psychologique de la littérature jusqu'au point de ne plus pouvoir lire, tant les connotations de la moindre phrase, voire du moindre mot, l'égaraient dans le labyrinthe infini des corrélations. Il y avait Édouard, que l'obsession de la stratégie défensive avait, à l'instar du protagoniste de la défense Lougine, acculé à la pire des paranoïas. Il est à noter que tous deux avaient fini par occulter quelque peu l'aspect ludique du jeu, refusant de jamais jouer aucune partie rapide, et se perdant des nuits entières dans des préparations stratégiques extraordinairement méticuleuses. Sans parler du fait qu'Édouard se suicida exactement de la même façon que Lougine en se défenestrant. Il y avait M, le grand escogriffe si talentueux, qui reprenait à son compte toutes les parties mal engagées pour les faire triompher et qui, en revanche, était plus ou moins incapable de conclure à son avantage une de ses propres prestations. Il y avait le vieil Hubert, l'Autrichien à petites lunettes cerclées qui vitupérait contre la belle jeunesse catholique et sportive, aussitôt que l'un d'entre nous osait s'attaquer à son roc bunkérisé. Il y avait Rosenfeld, dont l'obséquiosité et la fausse humilité avaient pour but de dissimuler une série de manœuvres lentes, tortueuses et très insidieuses, accumulant sans y paraître minuscules avantages sur minuscules avantages, pour aboutir à un étranglement implacable de notre position et dont on pouvait voir, à travers la fente de ses paupières à demi fermées, qu'il en tirait un indicible plaisir sadique. Il y avait Tony, le turfiste bellâtre, dont les tenues clinquantes semblaient émoustiller les secrétaires accoudés au bar de la salle de billard, qui voulait toujours intéresser les parties en blitz, mais qui, étant un joueur relativement faible, palliait ses défaillances en ayant recours à une ingénieuse méthode de tricherie. Dès qu'il sentait sa position sérieusement menacée, il feignait de s'en prendre à l'un des spectateurs présents, un kibitzer, dont les remarques l'auraient prétendument distrait. Et il entamait une algarade avec lui en donnant l'impression de se désintéresser de la partie tellement il était exaspéré. Il ne manquait pourtant pas de continuer à jouer, tapant violemment les pièces sur l'échiquier en les positionnant subrepticement, mais avec dextérité, à l'intersection des deux cases, ce qui lui permettait de nous placer soudain une fourchette de cavaliers décisive.
Voilà, jolie galerie de portraits, Denis Grosdanovitch. Alors en plus, dans ce club de jeux parisiens, on peut pas dire que le fair play soit toujours au rendez-vous.
Quoi. Ah ben non, non. Mais ça, de toute façon, vous savez, moi j'étais un sportif aussi. Le fair play, c'est le grand problème des jeux. Hein, parce que, comme je le disais avant, la plupart des joueurs confirmés mettent tellement d'eux-mêmes qu'une fois vaincus, ils ont l'impression d'avoir été niés dans leurs œuvres vives, dans leur plus stricte intimité. Donc,
oui, ils jouent leur vie, en voilà, fait, dans le jeu. Ils misent leur vie, en quelque sorte. Ouais.
Mais encore plus aux échecs.
Oui, encore plus aux échecs. Alors, il y a les mauvais perdants, et puis il y a aussi les mauvais gagnants. Ah, alors, c'est qui les mauvais gagnants, Denis Grosdanovitch?
Les mauvais gagnants, c'est... Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux, alors ça, je vais parler par exemple du tennis. Au tennis, vous faites une partie contre un joueur et vous perdez, et invariablement, vous cherchez des excuses à la sortie. Oui. Genre, j'ai mal dormi, j'étais pas en forme aujourd'hui.
Le temps était un petit peu lourd, c'est l'arbitre qui était à côté de ses pompes.
Le bon gagnant, c'est celui qui avalise les excuses de l'autre en disant « oui, j'ai l'impression que t'étais pas... » Alors, le perdant sait très bien que l'autre le fait d'une manière, comment dire, diplomatique, mais il lui sait gré de le faire. Est-ce que le mauvais gagnant, c'est celui qui dit « ah non, détrompe-toi, t'as très bien joué aujourd'hui ». Mais aujourd'hui, j'étais dans une forme merveilleuse.
Oui,
ça, c'est le mauvais gagnant. Parce qu'il vous écrabouille encore plus.
Voilà, encore plus. Alors, il y a aussi les yougos. Alors, les yougos, c'est un passage un peu délicat de votre livre. Bon, il faut recadrer historiquement parlant. On est encore, évidemment, à l'époque de la République fédérale de la Yougoslavie. Et, il y a une tradition d'échecs cette région des Balkans. Et alors, il y a un chapitre très drôle où on a un peu l'impression que c'est les yougos et les gogos.
Oui, c'est ça, exactement. Très bien vu, oui, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que il faut savoir que la Yougoslavie il y avait moins de grands joueurs qu'en URSS, mais vu la taille respective des deux pays, en fait, la Yougoslavie était le pays le plus fort au monde, qui contenait le plus grand nombre de joueurs d'échecs de grande maîtrise.
Et donc là, les Yougos de Paris, ils étaient bons et ils se savaient bons.
Ça rejaillissait même sur des joueurs moyens, qui était infiniment plus fort que tous les joueurs moyens français. Et donc, il y avait beaucoup d'ouvriers yougos à l'époque qui venaient le soir pour finir le fin de mois là et qui piégeaient des gogos. des gens qui se croyaient un peu forts, du genre, comme je l'explique dans mon livre, des gens qui avaient des bonnes situations en France, vous voyez, et puis qui sortent, des ingénieurs de haut niveau.
Donc qui portaient un peu leur carnet de chèques sous le bras.
Oui, voilà, et qui s'imaginaient être forts aux échecs. Et eux, ils faisaient semblant d'être des pauvres types. Ils exagéraient leur accent, ils exagéraient leur fait de mal parler. Et puis, ils leur proposaient innocemment une partie. Et puis, la première, ils faisaient exprès de la perdre. Et puis ensuite, ils faisaient semblant de s'énerver. Et puis, petit à petit, comme j'explique, il y avait des comparses autour, comme au Bonneto.
Voilà, c'est, moi j'ai pensé au Bonneto, effectivement, dans d'autres quartiers de Paris.
Autour, en disant, oh là là, mais tu sais, fais attention, j'ai l'impression que c'est un grand maître déguisé, en parlant de... Ils avaient très bien vu que c'était un mauvais joueur. Ouais. Et alors l'autre faisait semblant de s'énerver, puis gage de son énervement, il proposait de l'argent. Et l'autre, très content de pouvoir donner une correction et puis de régaler son nouveau public qui lui était acquis, acceptait. Et puis petit à petit, il lui arrivait de perdre des sommes assez faramineuses.
Ouais, alors c'est vrai que c'est assez drôle. On rit beaucoup hein, dans le livre parce qu'il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de deuxième degré. Et puis on apprend aussi beaucoup de choses parce que bon, c'est très érudit. Il y a énormément de références philosophiques, littéraires. Et puis il y a le vocabulaire aussi, il y a le lexique qu'on a entendu là dans l'extrait. Des parties en blitz, le blitzer, c'est quoi?
Alors, le blitz, c'est les parties, blitz, ça veut dire éclair, c'est les parties rapides de 5 minutes chacun. Et vous savez comment il fait la pendule d'échecs, quand vous avez terminé de réfléchir, vous appuyez sur votre partie de pendule, ça déclenche celle de l'autre. Et si on n'a pas maté l'autre en 5 minutes, le premier qui tombe au temps a perdu.
Donc on joue à la fois contre l'adversaire et contre le temps.
Oui, absolument.
Et puis il y a le kibitzer. Là aussi, on a entendu ce mot. Alors, vous régalez parce que ça fait partie du folklore, finalement, du jeu d'échecs.
Kibitzer, alors ça, c'est un mot yiddish. Parce qu'il se trouve, comme je l'explique...
Il y a beaucoup de mots yiddish, d'ailleurs.
Hein. Oui, parce que les échecs ont été un apanage juif pendant pendant pratiquement le 19e et jusqu'à la fin du 20e. Maintenant, c'est en train de disparaître, ça. Mais de ce fait, et à New York, il y avait énormément je viens de lire la vie de Bobby Fischer, c'était vraiment... Le Manhattan Chess Club, c'était un club complètement fréquenté que par une population juive. Et donc, le kibitzer, c'est le commentateur qui en général s'assied sur le bord des tables et fait des commentaires sardoniques plus ou moins désobligeants pour commenter les parties, mais qui lui-même se met jamais en lice.
Alors quel genre de joueur je suis? Un type qui joue l'offensive ou la défensive? Ni l'un ni l'autre. Je m'adapte à l'adversaire. S'il aime attaquer, je le force à se mettre sur la défensive. Si c'est le genre plutôt prudent, je l'oblige à prendre des risques. Quand tu viens ici, petit, laisse ces conneries à la porte. Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. Tu veux mon roi? Alors il faut venir prendre mon roi. Les autres pièces ne sont qu'un moyen d'y arriver. Tu regardes juste la vie qui passe. Tu crois que du moment que tu coules pas, les choses vont comme il faut. Mat.
Dans ma banlieue, y'a des gens sérieux. La rue se confie à nous. Des Salvatore Rina, des Luke et Luciano. Les Schmitt, c'est pas leur cours, c'est pas leur jour. Les soldats sont des pions, les fours restent collés à leur tour. Sont prêts à crever pour leur four. La part au sang, big vie. Je me touche up, je te touche up. On se check en mode wifi. Quand ton miroir te félicite, que le reste en vie. Un jour sera le roi de la jungle, enfin si tu restes en vie. RDV loin d'ici, t'es prévenu, je vais pas te leur dire. L'ancien par où t'es rentré, on l'a, je t'ai pas vu sortir. J'aimerais te parler d'autre chose, réponds quand on cause. Chacun sa drogue, sa dose, bouche ouverte comme une maison close. Finir échec en trois coups, certains s'en piffent là où tout le monde s'appelle mon poteau à partir d'un certain chiffre. Quand on a mangé des pierres, on respecte les pattes, puis tout bascule les Schmitt et tes assos te cherchent, échec et mat. Fais pas le fou, t'es pas fou, je passe des FBI. J'envoie une photo de Kala retweetée par le FBI. Secret Society, j'ai dépassé la France, boy. Y'a ceux qui dansent et ceux qui mènent la danse. Chaud comme un terrain de France, le froid est comme Fama. Monte le bûcher qu'on crama, en rappant on crée des dramas. 93 monsters, on respire juste par principe. On fait le max, c'est des fourmis qui flambent avec la Air Max. J'ai jeté du talent au peuple, au vrai, au fourbe. Les punchés tous, j'ai fait le même coup que Jésus avec le Rhodes. Qui parle assumera la colère, ta loi unique, Je l'enraye ici qui paye les violons, choisis la musique. I need money, ma banlieue a un cri. Vivre et posséder la vérité à un prix, frère. S'empêcher de bomber le torque quand les pecs éclatent. Le roi est mort, pas le chèque et moutre, le chèque est mort.
Échec et mat, Sofiane dans VMDN sur RFI avec Denis Grosdanovic qui publie La vie rêvée du joueur d'échecs aux éditions Grasset. Alors la chanson, vous étiez très attentif hein, au oui, début, oui. En particulier des paroles au début du morceau. Et pour bien comprendre la science du jeu, alors il distingue, lui, Sofiane, les offensifs et les défensifs. Vous préférez commencer par distinguer la stratégie et la tactique. Alors peut-être on peut commencer par rappeler justement la différence entre les deux.
Oui, alors la stratégie et la tactique, c'est deux choses qui se combinent. Mais la stratégie, d'un point de vue militaire, au départ, c'est savoir si on va attaquer plutôt à l'aile gauche qu'à l'aile droite. Tout ce qui est d'un ordre intuitif et qui n'est pas calculé. C'est fondé sur un sentiment qu'on a des faiblesses de l'adversaire.
Donc c'est un plan d'ensemble.
C'est un plan d'ensemble. Tandis que la tactique, c'est comment on va réaliser ce plan d'ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'on va attaquer plutôt avec la cavalerie ou l'infanterie ou l'artillerie ? Est-ce qu'on va d'abord faire donner l'artillerie ? Est-ce qu'on va attaquer la nuit ou le voilà, et toutes les petites manœuvres subsidiaires qui viennent pour réaliser ce plan d'ensemble.
Et donc, aux échecs, ça se traduit comment ?
Alors, aux échecs, on voit qu'il y a deux grands courants prédominants. Il y a des joueurs qui sont plutôt tacticiens ou calculateurs, ou plutôt stratèges. En réalité, les grands joueurs sont bons dans les deux domaines, bien qu'il y a toujours une prédilection pour l'un des... Par exemple, Kasparov était surtout un calculateur prodige, tandis que son opposé, Karpov, c'est pour ça que leur duel était magnifique dans les années 80, c'était cette opposition de style.
Voilà, dans les années 80, jusque dans les années 2000, ça a duré une bonne vingtaine d'années. Hein,
Oui, ça a duré très longtemps.
Ouais. Voilà leur rivalité, hein, ces deux soviétiques et ensuite russes, opposition donc de stratégie, de tactique, opposition de style donc,
de style.
Et opposition de caractère aussi.
Ah bah oui, complètement, parce que on en a fait un peu, comment dire, Karpov, c'était un peu l'homo soviéticus parfait, tandis que Kasparov, on le voit maintenant avec son opposition à Poutine, puisqu'il est passé à la politique, était au contraire très opposé au côté, un peu rigide du système soviétique. Tandis que Karpov, on était l'incarnation.
Alors, vous-même, Denis Grosdanovic, vous êtes plutôt un joueur tactique ou un joueur positionnel ?
Alors, en fait, j'aimerais plutôt être un joueur tactique et attaquant, de ce fait. Mais je suis malheureusement nanti d'une très faible faculté de calcul. Je suis un très mauvais calculateur. Et donc, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens d'être un attaquant comme je le voudrais, comme je l'étais au tennis, puisque au tennis, je faisais service volé. Mais non, malheureusement, je suis pas assez bon calculateur. Parce qu'il faut savoir que pour bien attaquer aux échecs, il faut être un très bon calculateur. Parce que si vous menez une attaque, il faut qu'elle soit d'une précision... horlogère.
Ouais, ouais. Et donc, comme vous êtes un mauvais calculateur, eh bien, vous avez une admiration pour
bien sûr,
pour un certain Mikhail Tal.
Ah bah lui, oui.
Joueur né en Lettonie. Pour quelle raison ? Parce que vous lui vouez un véritable culte. Je crois que vous employez le mot culte.
Oui, hein. C'est un mot culte. Parce que ses parties à les étudier sont de véritables œuvres d'art. Et lui, il était capable de calculs tellement incroyables qu'aucun de ses adversaires ne pouvait comprendre la manœuvre qu'il était en train de faire sur le moment. Et puis, une vingtaine de coups plus tard, se retrouvait étranglé. Et entre autres, il faisait ce qu'on appelait des sacrifices positionnels, c'est-à-dire qu'il sacrifiait une pièce au départ pour déséquilibrer la position de l'adversaire.
Oula, il a sacrifié sa tour, qu'est-ce qui se passe veut m'emmener, je comprends pas, il n'y a pas de logique.
On ne comprenait pas. Ouais. Et en fait, c'était seulement 20 coups plus tard, d'un seul coup, il y avait un petit pion qui allait damer, et il avait vu ça. Mais c'était un être tout à fait particulier, parce qu'il était doué de ce qu'on appelle hypermnésie. Puisqu'il est connu qu'il
avait une mémoire absolument incroyable. Oui, parvenu à tout retenir, et vous racontez d'ailleurs qu'enfant son père
lançait des petits défis. Ouais. Son père était médecin, et quand il était appelé pour aller soigner un malade, il avait d'après les symptômes qu'on lui avait décrits, il pressentait que ça devait être tel genre de maladie, et il demandait à son fils qui l'accompagnait d'apprendre par cœur les pages du Vidal, si on peut dire, de russe.
Oui.
Et devant le malade, il lui demandait de lui réciter. Et l'autre le récitait.
Voilà, donc le lectionnaire des médicaments, pour faire ça. Donc effectivement, c'est impressionnant. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Il y a deux mots que vous avez employés quasiment dans la même phrase à l'instant à propos de Tal, Denis Grozanovitch. C'est le mot calcul et le mot artiste. Ça va ensemble, ça?
Ben, en principe, non, mais...
Et c'est peut-être ça aussi, la magie des échecs, alors.
Oui, c'est ça, exactement. C'est bien vu. C'est que, effectivement, le calcul aux échecs peut confiner à une forme d'art. Parce qu'il y a des combinaisons qui sont tellement merveilleuses, qui semblent tellement sorties de nulle part, comme des tours de magie. Et c'est ça le côté merveilleux des échecs qui retient beaucoup de gens, c'est ce côté artistique.
Oui, mais en même temps, vous ajoutez une autre dimension, c'est le flair, c'est le sixième sens. Donc c'est savoir saisir l'instant. C'est pas contradictoire avec la notion de calcul, ça, justement ?
Si, d'une certaine façon, mais en même temps, non, parce que ça doit se combiner, et tous les grands joueurs combinent la chose. C'est ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le savoir saisir, c'est un mot grec qui veut dire savoir saisir le bon moment. Alors, dans la vie, et c'est pour ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, comment raccorder les échecs avec la vie? Eh bien, justement, voilà une chose que les échecs nous apprennent, c'est de saisir le moment opportun pour, par exemple, déclencher une offensive quelconque vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez maille à partir, ou bien, au contraire, faut-il être diplomate, ou faut-il se retraiter, ou bien, je ne sais pas, dans une tentative de séduction amoureuse, le bon moment à saisir. Ouais. Et donc, oui, ce genre de choses. Eh bien, les échecs vous l'apprennent.
Donc, il faut sentir le vent tourner, il faut sentir l'autre, donc ouvert. Quoi.
Voilà,
il
ne
faut pas s'enfermer dans sa propre logique, et puis il faut s'adapter.
Il faut savoir observer beaucoup. Et de la même manière, aux échecs, il faut savoir beaucoup observer comment l'autre manœuvre ses pièces, dès le départ surtout. Et à partir de ce moment-là, on peut en déduire beaucoup de choses sur ce qui risque de se passer. Eh bien, je trouve que dans la vie, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est pas seulement les échecs, parce que, vous savez, moi, les grands champions de tennis que j'ai bien connus, ils se débrouillent toujours dans les vestiaires pour... observer leur adversaire.
Ah,
comment il s'habille, comment il noue ses chaussures, comment
les rituels,
parle.
Là, ça compte.
Et de là, il en déduit beaucoup de choses sur la façon dont l'autre va jouer.
Ah oui, quand même. C'est intéressant. On va faire un petit livre sur le tennis aussi, sur la stratégie.
J'en ai fait un.
Tennis, vous en avez fait un.
De l'art de prendre la balle au bon.
Voilà. Alors, facilité, cette capacité d'adaptation, d'observer, de réagir à l'adversaire, d'anticiper, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, Denis Grozanovitch.
Moi, c'est ce que j'appellerais l'intelligence. Mais ce contre quoi je m'insurge, et finalement tous mes livres sont un peu dans ce sens, puisqu'au fond, mes livres, je prends toujours un thème, comme par exemple les échecs, mais qui sont un prétexte, c'est de m'insurger contre cette logique prédominante à base mathématique qui est la nôtre, et qui, à mon avis, nous emmène droit dans le mur, parce que précisément, on ne se penche pas assez sur le côté intuitif de nous-mêmes, on ne fait pas assez confiance à notre âme profonde et au côté spirituel.
Oui, et pourtant, on se dit, l'ordinateur, il est capable de battre l'être humain. C'est ce qui est arrivé à votre ami Kasparov en 97, face à l'ordinateur d'IBM Deep Blue.
Oui.
Là, la preuve est faite. Bah, pour vous, non.
Ah non, pour moi, non. Oui, parce que, si vous voulez, les journalistes se précipitent toujours sur les victoires de l'ordinateur, mais ils oublient tout le reste. Dernièrement, entre autres, il faut savoir que le champion du monde de Go a joué une partie contre le meilleur ordinateur. Il a perdu la première partie. Alors tout le monde a dit, voilà, ça y est, c'est fini. Mais on n'a plus parlé du fait qu'il avait gagné la seconde. Et c'est très étonnant. Parce que d'un seul coup, non, il y a une sorte de, comment dire, il y a un fétichisme de l'ordinateur qui est très excessif. Et alors, aux échecs, il faut savoir que dernièrement, le deuxième joueur du monde, après Carlsen, qui s'appelle Nakamura, eh bien, il a battu un ordinateur en le faisant tourner en rond. Parce que lui, il avait, à la différence de Kasparov, il avait étudié le logiciel. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un ordinateur est programmé par des êtres humains. Et à partir de ce moment-là, on peut en déduire beaucoup de choses. Et il a fait tourner en rond l'ordinateur, et au bout du compte, au bout de 150 coups, ce qui est énorme aux échecs, il a fini par le battre. Et ça, on n'en parle jamais. Et tout simplement parce qu'il faut jouer contre un ordinateur d'une manière, justement, qui est uniquement stratégique. Il faut très peu. Il ne faut pas employer trop le calcul, parce qu'au calcul, l'ordinateur est imbattable. Mais comme aux échecs, il y a aussi de la stratégie. Et je trouve que dans la vie, c'est la même chose. On oublie trop que, d'une certaine façon, la nature, la planète, ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa est stratégique. Et à mon avis, on est en train de s'en mordre les doigts actuellement.
Alors, tous les joueurs d'échecs très célèbres qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, on les retrouve dans votre livre, et vous évoquez aussi une joueuse, la Hongroise Judith Polgár, une des rares femmes à avoir accédé au bâton de maréchal, hein, au titre de GMI, Grand Maître International. Elle est devenue à l'âge de 15 ans. Judith Polgár, dont le personnage a en partie inspiré l'héroïne de la mini-série américaine Le Jeu de la Dame, et qui a fait un tabac il y a quelques semaines. C'était l'automne dernier sur Netflix. Amélie Beaucourt.
Comment s'appelle ce jeu ?
Ça s'appelle les échecs.
Vous voulez bien m'apprendre ?
Après la sortie de la série sur Netflix qui raconte le parcours d'une petite prodige de l'échiquier, les sites de jeux d'échecs en ligne enregistrent un pic d'inscriptions impressionnant alors que le premier confinement, à la mi-mars, avait déjà fait gonfler les chiffres. 3 millions de joueurs actifs par jour, près du double par rapport à l'année précédente. Mais parmi cette masse de nouveaux adeptes, pas sûr que les joueuses soient proportionnellement plus nombreuses, selon Andrea Navrotescu, 6 fois championne de France chez les jeunes.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de jeunes femmes que ça qui commence à s'intéresser aux échecs. Enfin, si, il y en a forcément quelques-unes par effet de mode où la série a fait que ça a peut-être réveillé des vocations chez certaines. Mais j'espère du fond du cœur qu'il y aura plus de jeunes femmes et jeunes filles qui auront à cœur de rentrer dans le monde des échecs, notamment le monde compétitif.
En France, environ 20% des joueurs d'échecs sont des femmes, toutes catégories confondues. Il existe d'ailleurs des compétitions exclusivement féminines, ce qui peut surprendre pour ce sport où les capacités physiques ne sont pas un critère de sélection. Pour Andrea, c'est surtout une question de parité.
Nous avons toujours été beaucoup moins nombreuses, donc pour des questions d'équité, il y a eu des championnats nationaux et internationaux qui ont été créés pour encourager la pratique des échecs chez les femmes. Mais sinon, la plupart des tournois, ce sont des open où on inclut tout le monde, que ce soit homme ou femme, vétéran ou jeune. Et j'ai envie de dire, oui, en France, il y a seulement 20% de joueuses, mais c'est largement mieux que dans la plupart des pays. Parce que, par exemple, en Espagne, j'ai entendu qu'il n'y avait plus de championnat féminin national et le pourcentage des joueuses était tombé à seulement 7%.
Parmi les nations les plus représentées dans le top mondial féminin, la Russie, la Chine, l'Inde et la Géorgie. Mais une seule femme figure dans le top 100 mondial mixte, la chinoise Hui Yifan. Les échecs attirent globalement moins les filles que les garçons, selon la Fédération française, car ils sont vus comme un sport mathématique et souffrent des stéréotypes qui éloignent les filles des disciplines scientifiques. Mais même une fois licenciées, leur nombre décroît passé l'adolescence.
Lorsqu'elles participaient au championnat de France dans les catégories jeunes, elles avaient l'habitude d'être appuyées et soutenues parce que justement les entraîneurs, les clubs étaient à la recherche des titres. Mais une fois qu'elles avaient atteint l'âge adulte, c'était complètement lâché à elles-mêmes parce que finalement on trouvait pas d'intérêt sportif à ce qu'elles continuent la pratique des échecs. Et elles ont tout simplement perdu l'intérêt et perdu l'appui de leur club ou de leurs entraîneurs. Et fatalement, elles ont arrêté de jouer, malheureusement.
Et comme dans tous les milieux, les préjugés sont monnaie courante.
C'est une mentalité tellement ancrée dans les esprits, surtout chez les amateurs, que parfois, ils vont te dire, par exemple, tu joues bien pour une femme. Ils vont penser faire des compliments, alors que clairement, ce sont juste des choses qui n'ont pas lieu d'être dites.
La série Netflix, qui montre pourtant une jeune femme enchaîner les matchs sans difficulté face à des hommes, serait donc, selon Andrea Navrotescu, légèrement utopiste.
Certes, ce n'est pas la situation actuelle, sous-entendu que les hommes acceptent volontiers de perdre contre une femme et lui font des baisements après la partie perdue, etc. Peut-être est-ce un exemple de comment devrait être la situation actuelle. On peut considérer ça comme ça.
Face à vous, Bess Harmon, je m'incline. Vous avez gagné.
Vous avez été mon meilleur adversaire.
Un dossier de notre pousseuse de bois à nous, Amélie Beaucourt, dans VMDN. Vous avez vu la série
Le
Jeu de la
Dame ? Oui, bien sûr, c'est excellent, excellent. Excellent à tout niveau.
Et comment est-ce que vous expliquez, pour reprendre la question qu'Amélie posait à l'instant, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a si peu de championnes d'échecs ? Est-ce que les échecs, le milieu des échecs serait un milieu machiste ?
Bon, c'est pas ça. C'est un problème anthropologique. Ça vient de très très loin. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, c'était l'homme qui faisait la guerre. Et donc, et l'agressivité des guerriers étaient masculines. Les femmes ne prenaient pas peur. Et donc, c'est passé dans les gènes. Et donc, il est tout à fait normal que les hommes soient... Il faut être très agressif pour bien jouer aux échecs. Il faut avoir une dose d'agressivité. Comme je le disais, sublimée. Mais cette dose d'agressivité, évidemment, elle est devenue génétique. Et donc, sans doute que ça changera maintenant, dans la mesure où justement, le côté artistique des échecs va sans doute se mettre à prédominer. Et c'est pour ça que Judith Polgar est aussi extraordinaire, parce que, comme je l'explique dans mon livre, elle a été presque aussi forte que les meilleurs joueurs mondiaux, mais en jouant d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire qu'elle jouait d'une manière très artistique. On avait l'impression qu'elle faisait un récital au piano. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste de dire que les hommes acceptent pas la défaite contre les femmes, parce que, comme on le voit dans la série, parce que justement, j'ai vu beaucoup de joueurs tellement vaincus par la beauté des combinaisons et de la façon élégante de jouer de Judith Polgar qui, effectivement, lui rendait hommage.
Direz des nouvelles sur RFI.
Avec Denis Grosdanovich qui publie La vie rêvée du joueur d'échecs chez Grasset, de nombreuses citations par Sem, votre récit, hein, notamment celle-ci de Xavier Tartakover, grand maître international en 1950. Je cite, une partie d'échecs se divise en trois étapes. La première où vous espérez avoir l'avantage. La deuxième où vous croyez avoir l'avantage. La troisième, où vous prenez conscience que vous êtes en train de perdre. Vous l'avez constaté, vous aussi.
Oui, ça, c'était un peu l'histoire de ma vie, vos échecs. Je dois dire, il y a beaucoup d'humour, Tartakover.
Ouais, mais l'échec, c'est aussi un moyen de progresser, quoi. C'est aussi une forme de propédeutique, en quelque sorte. Vous avez bénéficié de vous-même de vos échecs, vous avez modifié votre comportement face au plateau et dans la vie.
Ah oui, oui, c'est ce que je raconte, c'est que... Oui, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé parce que, entre autres, je me suis aperçu... parce que je m'étais arrêté de jouer aux échecs parce que j'avais subi une addiction étant jeune, ce que je raconte dans le livre.
On va y venir.
Et puis, pendant à peu près 10 ans, j'ai arrêté de jouer, un peu comme un alcoolique repenti. C'était devenu une drogue. Bon, et quand j'ai repris, j'ai décidé d'écrire des carnets sur mon retour aux échecs. Et je voulais m'en servir comme une sorte d'auto-analyse, si tant est que ça soit possible. Et je me suis aperçu assez vite que j'avais une tendance, en milieu de partie, à surestimer ma position. Et je me suis rendu compte que j'avais cette tendance aussi dans la vie. Et ça m'a beaucoup servi.
Mais est-ce que appréhender mieux un problème d'échec permet d'appréhender mieux sa propre vie, justement, l'existence?
Moi, je crois, oui. Moi, je crois. Ça, les échecs apprennent énormément de choses à ce niveau. Parce qu'au fond, on a tout le temps à faire à l'autre, en face. Et entre autres, ça nous apprend beaucoup... justement à respecter l'adversaire, à savoir que c'est toujours très difficile de gagner une partie d'échecs sérieuse, parce qu'il y a des ressources infinies, des pièges de toutes sortes. Ça apprend beaucoup la circonspection et ça apprend la ténacité.
Mais est-ce que ça apprend à raisonner aussi ?
Ah bien sûr, oui. Bien qu'il faut quand même bien distinguer le raisonnement logique échiquien et le raisonnement qui doit être adapté à la vie vivante. Et c'est deux choses quand même bien différentes. Ça, j'insiste aussi dans le livre.
Hein. Oui. Alors, parce que vous faites un clin d'œil quand même appuyé à la prise de décision en matière de politique publique. Et là, on est obligé, on va y revenir. Actualité oblige de penser à la gestion de la pandémie. On entend souvent dire, Denis Grosdanovich, que le virus va plus vite, que les dirigeants ont toujours un ou deux temps de retard. Ça a été vrai pour les masques, pour les tests, pour la vaccination, peut-être même pour les décisions de restrictions, confinement, etc. Est-ce que nous serions mieux administrés, mieux dirigés si les gouvernements, les préfets, les fonctionnaires, les administrations réfléchissaient comme des joueurs d'échecs ?
Ben non, justement, moi, c'est la thèse que je défends dans mon livre, c'est que justement, ils raisonnent trop comme des joueurs d'échecs et qu'ils ne devraient pas le faire, si vous voulez. Les échecs auraient dû, d'une certaine façon, leur apprendre que la vie n'est pas une partie d'échecs. Et que justement, c'est bien différent. Et qu'il faut tenir compte de tas de paramètres qui n'appartiennent pas à la logique. Et parce que la vie vivante ne se laisse pas encadrer. Et donc, non, au contraire, je pense que moi, ce que m'ont appris les grands joueurs d'échecs que j'ai côtoyés, c'est que justement, il fallait que je se méfie énormément dans la vie des gens qui étaient trop raisonneurs. C'est-à-dire des gens qui ratiocinaient. C'est-à-dire une fausse raison, de faux raisonnements. Et entre autres, la plupart des grands maîtres d'échecs que j'ai connus étaient des gens qui, à mon sens, déraisonnaient terriblement.
J'ai avancé mon fou pour te prendre ma reine. Attendre me rend fou, je vais tenter le coup. J'ai avancé mon fou et je ne veux pas perdre. À part toi, tout le reste, je m'en fous. J'ai avancé mon fou pour t'arrêter net, te stopper ma reine dans ta jolie retraite. J'attends ton prochain coup de fil et de tonnerre. Je sais, c'est encore flou, l'amour, c'est pas très net. Les échecs, ah, chérie, ça me connaît, ah, les échecs, ah, c'est mon jeu préféré, préféré.
Camille Bazbaz, les échecs dans VMDN sur RFI. Alors vous l'avez employé il y a un instant, il y a un mot qui revient assez souvent dans votre liste, c'est le mot addiction. Vous avez vous-même souffert, c'est ce que vous écrivez, d'une addiction au sortilège des 64 cases de Denis Grosdanovitch. Vous racontez que vous avez passé des après-midi entiers dans ce fameux club du côté du 8e arrondissement, du quartier de l'Étoile, pas très loin de l'Arc de Triomphe. Vous racontez que vos rêves étaient peuplés de personnages qui se déplaçaient en diagonale comme des fous, en L comme des cavaliers. C'est pas du roman, ça, c'est vrai.
Ah non, c'est vrai. C'est terrible, cette histoire.
Donc les échecs peuvent devenir une drogue dure.
Oui, d'ailleurs, c'est très très bien décrit aussi bien dans le livre de Stephen Zweig, Le joueur d'échecs, que dans le livre de Nabokov, La défense sous Gine. Les protagonistes sont envahis par cette...
Oui, donc les échecs peuvent effectivement enfermer. Alors, vous consacrez d'ailleurs deux chapitres dans la dernière partie du livre. C'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier, l'antépénultième. Donc, au joueur d'échecs de Stefan Zweig et à La défense sous Gine, qu'on a déjà cité, de Nabokov. Deux romans qui, on le sait, se termine mal, hein, puisque le premier héros, celui de Zweig, devient fou et le second se suicide, se balance par la fenêtre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en commençant peut-être par évoquer Zweig.
Ah ben, Zweig, ben, tout simplement, à force de jouer dans l'histoire de Zweig, c'est qu'il joue tout seul en prison, contre lui-même. Et ça devient tellement obsessionnel qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit d'autre.
Il y a deux prisons, en fait. Il y a la prison Les Murs et puis il y a
la prison mentale
qu'il construit lui-même.
Mais ça, c'est un danger permanent aux échecs. Et on peut dire que, quand même, la plupart des grands joueurs d'échecs actuels sont quand même des gens qui sont enfermés dans un monde particulier.
Donc vous dites attention, danger.
Ah oui, oui, bien sûr. Il faut pouvoir tempérer la chose.
Et Nabokov?
Nabokov, c'est la même chose. Hein. C'est l'histoire d'une paranoïa. Puisque, en fait, il est champion du monde et puis il tombe amoureux d'une femme qui le tire un peu des échecs. Et il pense pouvoir... parce que lui-même finit par en souffrir. Mais elle s'aperçoit qu'il ne cesse de... Il est tout seul dans sa chambre pendant des heures, il écrit des petits bouts de papier qui dispose. Et en fait, il est en train d'établir une immense stratégie contre le monde. en entier contre les agressions que le monde pourrait lui porter. Donc il est revenu à cette sorte de paranoïa échiquéenne à travers un autre système qu'il est en train de créer. Et donc les échecs l'ont tellement envahi d'une certaine façon, cette disposition d'esprit paranoïaque. Et ça, c'est une chose terrible et donc, à laquelle il faut faire extrêmement attention.
Bon, et vous racontez dans le livre que vous êtes finalement désintoxiqué très facilement. Quoi. Il y a un moment presque poétique qui non, vous permet de sortir effectivement de cette drogue.
Comme j'ai toujours été très littéraire et que j'adorais la poésie, mais pour moi, la poésie, c'est pas seulement la poésie littéraire, c'est l'état poétique, si on peut dire. Hein.
Donc regarder, observer, se laisser gagner
et
par...
Un soir où j'avais joué aux échecs toute la journée, et où on dînait ensemble, on est sortis, c'était un soir de printemps, et on allait retourner jouer. Et puis d'un seul coup, il y avait un crépuscule tellement merveilleux, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir fou, que ce crépuscule avait... La beauté de ce crépuscule avait failli m'échapper, et je me suis enfui. Et j'ai arrêté de jouer pendant 10 ans. Parce que
d'un coup, comme ça.
Ah oui, d'un seul coup.
Sevrage direct.
Ah oui, parce que je me suis dit... Quand j'ai repris, après, c'était en modérant beaucoup et en prenant les choses avec une certaine distance. Comme d'ailleurs tous les sports devraient l'être. Puisque vous savez, moi je suis un grand défenseur de l'amateurisme, d'une façon générale. Je pense que les sports professionnels tuent le jeu.
Donc vive les pousseurs de bois.
Voilà. Exactement.
Alors, il y a effectivement ce risque qu'on évoquait à l'instant, et puis il y a aussi des histoires merveilleuses que vous racontez, parce que les échecs peuvent enfermer, on l'a compris, les échecs peuvent aussi libérer, apaiser l'esprit, ce que vous appelez l'escapisme. Je ne sais pas si c'est un anglicisme,
si c'est un anglicisme
ou pas. Et vous prenez l'exemple, c'est une anecdote, mais elle est quand même assez significative, vécue par des Yougoslaves, pour le coup, au moment de la guerre.
C'était un des Yougos que j'avais connu, mais qui était croate, et qui avait dû retourner en 92 à Sarajevo, dans son pays. Il s'est trouvé coincé au moment du siège par les milices serbes. Et l'histoire qu'il m'a racontée, qui était complètement incroyable, c'est que beaucoup de gens se réfugiaient dans le club d'échecs parce que le club d'échecs n'était jamais bombardé. Parce que la Serbie était un pays où les échecs étaient carrément une religion. Et ils savaient qu'il y avait beaucoup de bons joueurs. Les artilleurs serbes savaient qu'il y avait beaucoup de bons joueurs dans le club de Sarajevo. Et ils évitaient de bombarder de ce côté-là.
Voilà, donc les échecs, une religion, comme vous dites. Est-ce que pour vous, l'écriture est aussi une religion, Denis Krstanovic?
D'une certaine façon, on peut le dire, oui. D'une certaine façon, oui, tout à fait. C'est une façon pour moi de rehausser les instants de ma vie. C'est-à-dire de créer une chambre d'écho à tout ce que je vis et de les bons moments... de les rehausser et donc de les vivre doublement, et puis aussi et les mauvais moments, d'une certaine façon, de les écarter, de les sublimer, d'essayer de les comprendre et peut-être de les contrarier à travers la littérature.
Parce qu'elle est extraordinaire, votre bibliographie, parce que vous avez écrit sur le tennis, vous avez écrit sur la désinvolture et sur la bêtise, vous avez arpenté le monde des songes, les terres d'émotion, les minuscules extases, vous avez raconté les tennismen, je l'ai dit, mais aussi les nageurs, oui. Les dandys, les marionnettes, il y a encore un chapitre d'ailleurs sur les marionnettes dans ce livre. En fait, vous êtes un écrivain, mais vous êtes surtout un immense curieux.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que je suis un curieux. C'est très bien défini. C'est comme ça que j'ai toujours été un observateur. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'étais à Nanterre en 68. Je faisais des études de sociologie. Et j'ai assisté au premier déclenchement. Et c'est curieux parce que je n'arrivais pas à participer. J'ai toujours été un spectateur, en toutes circonstances.
Merci beaucoup, Denis Krstanovic, d'être venu partager votre curiosité et votre livre, La vie rêvée du joueur d'échecs, paru aux éditions Grasset. Restez avec nous dans une poignée de secondes, l'info sur RFI. À demain avec Ludmila Charles pour un premier roman. Et vous m'en direz des nouvelles.